carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Bonjour mesdames et messieurs et merci de nous écouter sur Canal Académie. Yves-Marie Bercé, historien moderniste de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et cinéphile, nous parle de Madame de Montpensier, le film de Bertrand Tavernier qui attire les foules cet hiver. Les Français aiment les films historiques. Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Nos auditeurs vous connaissent bien. Tous les mois, vous nous présentez un personnage méconnu des 16e et 17e, exactement les siècles évoqués par le film, d'une manière ou d'une autre. Votre prochaine émission sera consacrée à Madame de Lafayette, mais aujourd'hui, il ne s'agit que de Madame de Montpensier, en fait de l'interprétation de l'œuvre de Madame de Lafayette par Bertrand Tavernier. Que pensez-vous de la transcription à l'écran de cette nouvelle historique et quelles sont les difficultés d'un film historique ?
Eh bien, il est vrai que Bertrand Tavernier devait faire une sorte de tour de force qui est de traduire dans le langage du cinéma, dans un langage d'image, un texte qui est assez bref, qui est d'une écriture féminine de la fin du XVIIe siècle. C'est-à-dire qu'il y a lieu de se souvenir que La princesse de Montpensier est une nouvelle composée en 1661 par Madame de Lafayette qui, au fond, jette les yeux sur ce qu'elle voit à son époque, c'est-à-dire les hôtels parisiens, la vie de cour dans les châteaux royaux.
Les salons précieux.
Autour de salons précieux, aussi les fêtes de cour autour du tout jeune Louis XIV, qui a 22 ans à ce moment-là, qui vient d'assurer de son pouvoir personnel dans le royaume. Donc, Madame de Lafayette voit le Paris et la cour des années 1660. Et elle transporte par pudeur, par discrétion, l'intrigue amoureuse qu'elle veut raconter. Elle la transporte 100 ans plus tôt, dans la période des guerres de religion, qui sert en fait d'un cadre, d'un moment de costume, de mœurs, qui instaure, si vous voulez, une distance entre son lecteur et l'intrigue. Alors, je ne sais pas bien si Bertrand Tavernier et si les spectateurs contemporains ont bien pris en compte le fait qu'il s'agissait d'une œuvre fantasmée, romanesque, écrite par une femme précieuse du règne de Louis XIV, représentant, fixant une intrigue amoureuse peut-être éternelle, dans un passé indécis, incertain, qui se trouve être celui des guerres de religion. Mais au fond, les guerres de religion, là, n'ont en elles-mêmes aucune importance. C'est le décor, c'est ce qu'on a planté au fond de la scène, le décor devant lequel les acteurs vont s'agiter. Mais ce qui nous intéresse, ce qui intéresse Madame de Lafayette, et au fond, je crois aussi, ce qui a su intéresser Bertrand Tavernier, c'est les intrigues amoureuses d'une princesse et de ses soupirants dans un moment de vie de prince et de château qui est une sorte d'imaginaire de conte de fées.
Oui, parce que l'histoire est inventée, mais les personnages ont des noms historiques. Et c'est le cadre dont vous parlez, là.
Voilà, Madame de Lafayette a voulu, elle a lu les chroniques dont elle pouvait disposer, racontant le règne de Charles IX ou de Henri III, mais elle n'a pas voulu faire œuvre d'historienne. Ce qu'elle pose en postulat, un postulat qui est celui peut-être de tous les romanciers, de tous les auteurs de théâtre, c'est que les passions amoureuses ne change guère au cours des âges et que l'on est amoureux, déçu, passionné, adultère, amant, de la même façon à toutes les époques et à tous les âges. Certes, il peut y avoir des clivages sociaux, des différences culturelles, des comportements qu'on dira même ethnologiques d'un pays ou d'une époque à une autre. Mais l'essentiel, c'est que pour que nous les comprenions, il faut bien que les ressorts de l'âme soient les mêmes et que ce soient les mêmes passions élémentaires que ces héros mettent en scène. Alors Madame de Lafayette, je crois, a voulu placer son intrigue dans un moment idéal, intemporel, qui se trouve être un moment de guerre, de ravage, mais qui est surtout le passé. C'est un moment qui est disparu, évanoui, et dans lequel, donc, on a beaucoup plus de liberté de faire agir les héros.
Oui, Comme ça, les désordres amoureux sont beaucoup plus tragiquement représentés aussi.
Ils acquièrent, je crois, une force intemporelle, comme Roméo et Juliette, dira-t-on, qui, après tout, peuvent, en dehors du balcon de Vérone et du XVIe siècle,
partout,
on peut les transporter.
Le
et on sait bien qu'ils ont donné lieu à beaucoup d'autres images, d'autres scènes, d'autres romans qui s'en inspirent.
Ce film de Bertrand Tavernier, pensez-vous qu'il a bien réussi ce décalage et qu'il a pensé 17e, 16e et aussi atemporalité même pour le style ?
Alors je crois qu'il a été sensible aux ellipses, au silence volontaire de Madame de Lafayette. La preuve en est que les batailles qu'il nous met sous les yeux n'ont pas de nom. On ne nous précise à aucun moment de date, de lieu. Il s'agit des batailles, je peux vous le dire, de Jarnac et de Moncontour. L'action se situe entre 1566 et 1572, la Saint-Barthélemy, mais ça n'a aucune importance. Et cette absence d'identification est, je crois, révélatrice. Elle correspond à une manière d'écrire de Madame de Lafayette qui ne donne jamais d'indication très exacte. Elle dit « à quelque temps de là ». Quelques mois après, voilà, elle ne nous donne jamais les dates ou à peine la saison.
Donc Bertrand Tavernier a été fidèle à ce film-là.
Il a été, je crois, donc sensible à cette sobriété, à ce silence volontaire de Madame de Lafayette. Alors, pour le spectateur contemporain, il a bien fallu qu'il explique des situations, ce cadre événementiel. Alors, il nous a ajouté un certain nombre d'épisodes.
Oui, alors quels sont
plus
les épisodes
ou moins bienvenus? Eh bien, tout à fait au début du film, tout le début du film, là, est résumé en fait en deux pages de Madame de Lafayette, alors que là, ça nous prend 20 minutes, mettons. Et on nous raconte la première rencontre du duc de Guise et de la jeune Renée de Mézières, qui sont encore adolescents. Ensuite, on nous annonce le mariage, et on a la scène du mariage de Renée de Mézières avec le prince de Montpensier. Et là, on ne nous épargne pas le
la
banquet,
nuit
la nuit de noces, avec le voyeurisme.
Oui, un petit peu voyeuriste.
Des parents. Alors, on sait bien que dans beaucoup de sociétés traditionnelles, on vérifie effectivement la consommation du mariage. Mais cette idée que la famille est assemblée derrière une porte pour se réjouir, je crois que là, il y a un effet qui est
décalé, en
un
fait,
peu qui grotesque et oui, burlesque de farce, qui ne correspond pas certainement à ce qui se passait chez le prince de Montpensier.
Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre épisode qui vous ont un petit peu...
Alors l'épisode de guerre était sans doute indispensable pour faire comprendre la calamité de l'époque, le fait que les hommes soient à la guerre et qu'ils ne reviennent dans les temps de loisirs, d'amour, de séjour au château, qu'à des périodes d'hiver relativement brèves. Mais ces scènes de bataille, on voit par exemple Guise se battre tout seul et égorger tout un tas de personnages autour de lui, un peu comme Machiste ou Tarzan. Alors je crois là que c'est inimaginable et que ces scènes de carnage en ordre dispersé correspondent à des fins de bataille rangées et qui donc ne supposeraient pas la présence de personnages comme Guise ou Montpensier ou Chabanne. Voilà, ce sont des détails. Mais je pense qu'on peut les signaler dans la mesure où, par ailleurs, il y a beaucoup de recherches de vraisemblance des détails matériels. Les paysans ne sont pas misérables. Il n'y a pas cet aspect paupériste, lamentable qu'on trouve souvent dès qu'on évoque le passé de l'ancienne France. Il y a là une imagerie qui est beaucoup plus sereine et qui, après tout, est beaucoup plus honnête.
D'accord, alors ce sont des libertés de metteur en scène, on peut comprendre, mais il a aussi bien réussi certains épisodes très importants qui scandent l'intrigue.
C'est ça, alors je crois là que c'est le grand mérite de Bertrand Tavernier, c'est qu'il est fidèle, c'est bien légitime, je dirais c'est son devoir, mais il l'accomplit merveilleusement. Il est fidèle à l'intrigue de La Princesse de Montpensier, je veux dire de la nouvelle La Princesse de Montpensier. Il y a 3 ou 4 épisodes qui sont majeurs, qui font comprendre le déroulement de l'intrigue tel que l'écrit Madame de Lafayette. Ce premier moment, c'est dans la familiarité qu'a le comte de Chabannes avec la princesse de Montpensier, devenue donc l'épouse du prince de Montpensier. Il est insensiblement pris par les charmes de la princesse, il est amoureux d'elle et il ose lui avouer. Et elle lui dit de façon qui est à la fois cruelle, désinvolte, qu'elle choisit de ne pas se souvenir de ce qu'il vient de lui dire, qu'on n'en parlera plus. Et bien sûr, ce moment, je crois, est merveilleusement décrit par le mot qu'elle ne s'en souviendrait pas de ce qu'il venait de dire. Je trouve que c'est un raccourci merveilleux de Madame de Lafayette, et on le retrouve bien sûr dans la scène de Bertrand Tavernier. Et puis après, alors, il y a un autre très beau moment, c'est...
C'est la pêche.
La pêche, voilà. Ouais. Guise et Anjou chevauchent le long de la Loire à la chasse et ils rencontrent au bord d'une rivière la barque d'un batelier dans lequel se trouve une ravissante jeune femme et où ils reconnaissent la princesse de Montpensier. Elle aussi reconnaît Guise qui a été son amoureux de jeunesse, de toute petite jeunesse. Et ils ne se disent rien, ils n'osent pas avouer qu'ils se reconnaissent et surtout le dire à ceux qui sont autour d'eux. Et Guise, d'un seul coup, comprend qu'il retombe prodigieusement épris de cette jeune fille qu'il avait séduite, qu'il avait séduit, lui, quelques années plus tôt.
Et là, la vibration est palpable, je crois, pour les spectateurs.
Et il y a une image, donc, de cette image de pêche. Et Guise dit qu'il sent qu'il est captif, prisonnier du sentiment qu'il a pour la princesse, comme le saumon est prisonnier des filets du pêcheur.
Et puis, quels sont les deux autres moments dont vous avez parlé,
alors,
qui sont des moments privilégiés?
Deux moments intenses qui, effectivement, comptent beaucoup pour le rythme de la nouvelle. C'est la rencontre de la princesse avec, de nouveau, Guise et Anjou dans un bal masqué qui se tient à la cour du roi Charles IX. Les hommes de la cour sont déguisés en habit mauresque, un habit d'arabe de fantaisie. Et suivant des conventions de l'époque, tous les hommes portent le même masque noir de mort. Et la princesse, trompée par la similitude de déguisement, avoue son amour à celui qu'elle croit être le duc de Guise et qui est en fait
Anjou.
Voilà, d'où, bien sûr, une suite de quiproquos, de malheurs, de confusion.
Mais c'est vrai que c'est très dense aussi à ce moment-là, parce qu'on voit Anjou qui tout à coup comprend et on se doute que la tragédie va être enclenchée.
Voilà, et puis cette tragédie des masques correspond bien là à une tension dramatique des 16e ou 17e siècles, où le masque fait partie, non pas de la vie quotidienne, mais de la vie festive. C'est quelque chose, c'est une occurrence, une manière d'être qui est très fréquente pendant environ 150 ou 200 ans, dans les bals, dans les distractions, et il faut donner une autre image, faire deviner. Il y a là tout un aspect d'agacerie sentimentale qui est très amusant, qui est propre,
oui,
à l'esprit de l'époque.
C'est très précieux, mais c'est aussi très élégant. Alors, la dernière scène à laquelle vous pensiez qui était très bien réussie par Tavernier...
Alors, la dernière scène tragique, c'est lorsque, enfin, la princesse, poursuivie par les assiduités continues, très délicates d'ailleurs, du duc de Guise, la princesse va jusqu'à l'inviter à la suivre dans son château et à monter la nuit dans son appartement grâce à la complicité d'une servante fidèle. Alors bien sûr, c'est une imprudence terrible, le prince de Montpensier, qui est jaloux de longue date, qui fait surveiller étroitement son épouse, surgit et il est en droit de tuer une femme adultère qu'on trouve la nuit avec un homme qui n'est pas son mari. Or, Guise a pu s'éclipser à temps. C'est le comte de Chabannes qui comprend l'instant tragique et
qui s'offre en sacrifice.
Qui accepte de prendre la responsabilité de ce scandale terrible, puisque bien sûr le couple ne peut pas y survivre. La princesse est chassée. Chabannes va mourir au cours de la Saint-Barthélemy, un peu par confusion. Et le prince lui-même a sa vie qui est désormais calamiteuse, désastreuse.
Donc finalement, vous pensez que ce film est conforme à l'intemporalité de l'intrigue amoureuse ?
Alors je crois que la manière dont Bertrand Tavernier a su traduire justement ces sortes d'incertitudes dans son jeu d'images fait penser qu'il a donné une traduction du 21e siècle dans un autre art, le 7e art, des délicatesses de la nouvelle écrite en 1661 par Madame de Lafayette. Alors, le talent de Tavernier, c'est ces grands paysages, ces campagnes ouvertes où chevauchent des cavaliers longuement, ce qui correspondait à la vie quotidienne des gens de ce temps. Au bout de longues cavalcades à travers des chemins creux où il y a du brouillard, beaucoup de brouillard de fond de vallée ou de petit matin qui s'attarde dans le paysage. On arrive dans des châteaux isolés et je crois là que, bon, on dira qu'on y retrouve des lieux communs, le château dans la forêt, les brouillards sur les champs. Bon, c'est le site romanesque très classique et je crois qu'il concourt à cette impression de conte, un conte tragique, mais on est dans un pays de nulle part, où l'on n'arrive jamais, qui n'est d'aucune époque, qui se situe à l'époque des guerres de religion, mais qui les comprend, qui connaît les costumes, qui connaît les camps. Finalement, je crois que c'est une sorte de royaume intemporel, celui des amours qui ne changent pas avec le temps, qui était celui qu'avait voulu Madame de Lafayette.
Merci beaucoup Yves-Marie Bercé. Vous avez non seulement donné une approche historique, mais poétique. Et je vous en remercie. Maintenant, nous allons entendre Françoise Thibault qui réagit avec une critique beaucoup plus acérée. Elle, c'est plus la forme et vous, c'était le fond. Au revoir Yves-Marie Bercé.
Au revoir.
Dès le premier plan du film, on est plongé dans les horreurs des guerres de religion. Les cadavres trucidés gisent dans la belle campagne française. Lambert Wilson, qui incarne Chabannes, poursuit quelques hérétiques ou considérés comme tels jusque dans une bâtisse d'époque. Par erreur ou dans le feu de l'action, il trucide une femme enceinte. Il ne s'en remettra pas et décide de ne plus combattre. Considéré comme traître à la fois par les catholiques et les protestants, il se met au service de son ancien élève, le prince de Montpensier, qui le prend sous sa protection. Suivent quelques plans confus entre les Guises et les Montpensier, avec des domestiques, des gamines déguisées en princesses, qui permettent, dans une conversation légèrement artificielle, de faire la connaissance de tous les protagonistes. En même temps, les pères, les nobles pères organisent des mariages hâtifs, ou plutôt vendent leurs enfants aux plus avantageux. Voilà un film très bien fait par un grand metteur en scène. C'est somptueux, avec de larges plans, de longs et beaux travelling dans la campagne. On dirait un dépliant de publicité écolo, une réclame pour châteaux et jardins. Le contexte est pourtant douloureux. La France est le seul pays d'Europe à avoir connu de vraies guerres de religion. Mais le cœur du problème se trouve en fait dans le cœur de l'héroïne qui n'aime pas son prince, de Marie, son pleutre compagnon. Et elle se meurt d'amour pour le grand Balafré, Guise. Décor, paysage, costume, mise en scène, tout révèle un immense talent. Ce film aura sûrement le César des plus beaux costumes à la prochaine édition de la remise des prix. Mais l'ensemble reste assez froid. D'abord, on connaît la fin. C'est un peu comme la vie du Christ. Et ce pauvre Chaban Wilson, il laisse sa peau assez rapidement. Dommage, car il était le seul personnage vraiment sympathique, au surplus servi par un acteur au mieux de son talent. Les autres, les genoux, sont un peu empaillés, récitent leurs beaux dialogues, faits par l'inusable Jean Cosmo, d'ailleurs très fidèle à Madame de Lafayette, un peu comme des pantins, on dirait qu'ils passent leur examen de fin d'études au cours Florent. Le ton général et des pauses dans le récit restituent assez bien les mœurs de l'époque, dans des décors d'ailleurs somptueux, et restent très fidèles à l'esprit de Madame de Lafayette. Quant à la fameuse princesse, elle est charmante, mais elle manque d'épaisseur. On se demande d'ailleurs finalement ce que tous ces hommes peuvent bien lui trouver. Et puis, je la sens trop moderne par rapport au sujet. Son visage, sa façon de parler, de bouger sont d'un autre temps, de notre temps, et pas de celui de l'amiral de Coligny. Elle a une brusquerie très 21e siècle et non pas du tout Renaissance. On rêve d'un peu plus de retenue, de mystère, de subtilité. Elle ne monte pas très bien à cheval en plus. On n'y croit pas. Par contre, Uliel est un Guise très convaincant et le futur roi de Pologne, avec ses yeux fardés, est fort bien servi. Il y a une très bonne scène avec la régente Médicis, parfaite, florentine à souhait, superstitieuse et vengeresse à loisir. La fin du film est un peu molle, on cavale beaucoup sur des chevaux harassés. Les paysages remplissent la lassitude, on sort de là avec mal aux reins. Bref, on finit par penser inévitablement, à la reine Margot de Patrice Chéreau, car la comparaison est essentielle, et on regrette Adjani et sa subtile folie. Bertrand Tavernier est un grand metteur en scène, qui s'est parfois risqué au film historique, ou du moins au film à costume, avec des réussites inégales. Le juge et l'assassin étaient un prétexte pour dénoncer l'éternelle ambiguïté des hommes. Il y eut aussi l'ennuyeuse fille de D'Artagnan, et surtout, surtout, le magique, superbe « Que la fête commence » en 1975, un des meilleurs films de Philippe Noiret, et sans doute un des plus beaux récits historiques français du cinéma de ces dernières décennies. Sur une époque, d'ailleurs, et sur un homme des plus ambigus. Tavernier aime l'ambiguïté, la peint avec talent et perspicacité. Il a aussi un côté, un peu comme Kayak, une volonté d'enseigner des choses aux spectateurs. Et cela tourne un petit peu au scolaire, à une certaine lourdeur. Et c'est un peu ce qu'on ressent dans ce récit qui traîne un peu à la fin. Alors, pourquoi cette princesse de chiffon, qui bien que superbe, nous laisse un peu sur notre faim ? On ne peut pas gagner à tous les coups, à tous les coups de torchon. Lui aussi, un film faussement historique, mais d'une très grande qualité. Au moins, on aura pris un bon bol d'air, et c'est toujours ça